Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et on continue à évoquer l'impuissance diplomatique des pays arabes en tentant d'expliquer la situation extrêmement complexe de cette région. Nous sommes en compagnie de Sophie Bessis, chercheuse associée à l'IRIS, historienne essayiste. Vous avez notamment publié La double impasse aux éditions La Découverte. À côté de vous, Laurence Louer, également chercheuse aux séries de Sciences Po, spécialiste des monarchies du Golfe. Et vous avez publié Sunnites et Chiites, histoire politique d'une discorde aux éditions du Seuil. Et puisqu'il va être question des monarchies du Golfe et notamment de la situation en Arabie Saoudite, on a vu, Laurence Louer, qu'il y avait eu une valse hésitation, que la stratégie du nouveau prince est finalement moins claire qu'on pouvait s'y attendre. Que peut-on comprendre à la situation actuelle du pays avec son jeu d'alliance, Israël, les États-Unis de chaque côté?
Alors déjà, sur le plan intérieur, l'Arabie Saoudite est dans une phase compliquée, puisque en fait, ce qui se profile, c'est très certainement le prince héritier de 32 ans qui va devenir roi, prendre la place de son père incessamment sous peu. Donc on a le passage de témoin à une génération beaucoup plus jeune, avec des méthodes de gouvernement assez différentes, hein, alors que la vieille génération gouvernait dans le consensus, avec des négociations dans les coulisses. Mm-hmm. Là, on voit en fait un autocrate assez classique dans le monde arabe, hein, qui impose par la force sa volonté, y compris à ses pairs, c'est-à-dire à des puissants membres de la famille royale. Et puis, l'Arabie Saoudite est aussi dans une position compliquée sur le plan intérieur, car à cause de la chute des prix du pétrole, eh bien, le budget est compliqué à boucler. L'Arabie doit s'endetter, doit lancer des mesures d'austérité à une population qui a été habituée au subventionnement tous azimuts, aux emplois publics abondants, bien payés. Et donc, la vie coûte de plus en plus cher, la protestation monte, et l'Arabie est engagée sur le plan extérieur dans une guerre coûteuse au Yémen, qu'elle n'arrive pas à gagner, qui est impopulaire. Et donc, tout ça est vraiment compliqué à gérer.
Dans ce contexte-là, qu'avez-vous compris de ce qui s'est déroulé avec le Premier ministre libanais, les allers-retours avec Saad Hariri? Y avait-il une stratégie claire? Parce que finalement, on a présenté MBS, donc ce prince qui serait appelé à régner, on l'a présenté comme ayant une stratégie extrêmement claire, précise. Est-elle aussi claire qu'on le dit?
Ah non, je ne pense pas qu'elle soit claire. Je pense qu'il agit au coup par coup. Sur le plan extérieur, son obsession, comme celle de ses prédécesseurs, hein, c'est vraiment l'Iran, contenir l'Iran. Et donc, l'épisode Hariri s'explique en partie par là.
Qu'aurait-il cherché à faire?
Il était dans un gouvernement de coalition avec le Hezbollah, donc l'allié principal de l'Iran au Liban. Et sans doute, le prince héritier saoudien a-t-il considéré qu'il était allé un petit peu trop loin dans la conciliation, dans le compromis et la coexistence. Ce qu'on dit aussi, c'est que Saad Hariri, qui possède la nationalité saoudienne, son père a fait fortune en Arabie Saoudite en étant très proche de la famille royale, eh bien, aurait été impliqué dans des affaires avec les grands princes qui ont été arrêtés récemment et sont toujours actuellement en résidence surveillée. Donc il y a un volet, on pourrait dire, intérieur et puis un volet extérieur à cet épisode Hariri.
Sophie Bessis, sur cette situation avec là aussi des prolongements qui vont donc vers Israël pour l'Arabie Saoudite, avec un axe qui est un axe un peu étonnant, à moins que vous n'y voyez une rationalité. Expliquez-nous laquelle dans ces conditions.
Non, il y en a une, effectivement. Et si nous revenons à ce que nous disions au début, je vous parlais d'impuissance internationale arabe face à la décision de Trump. Justement, si je relativisais cette notion d'impuissance, c'est parce que je disais que les puissances arabes aujourd'hui, donc l'Arabie Saoudite et l'Égypte, disons, ont d'autres priorités que l'indépendance de la Palestine et la création de deux États côte à côte, etc., etc. Cette priorité étant l'endiguement de la progression iranienne dans le monde arabe. Et cet endiguement, cette priorité vers l'endiguement de l'influence iranienne est partagée avec l'État d'Israël. Est partagée avec l'État d'Israël, c'est-à-dire que vous avez des États du Moyen-Orient, et Israël en est un, qui craignent par-dessus tout la progression de l'Iran. Donc nous assistons depuis quelques années à la constitution d'un axe évident, hein, que bien entendu, qui est un axe Le Caire, Tel Aviv, Riyad, contre l'Iran. Et l'Arabie Saoudite, sur la question de la décision de Trump, a émis les protestations protocolaires indispensables, dans la mesure où, en plus, l'Arabie Saoudite est le pays que l'on sait en matière de leadership de l'islam sunnite, bien sûr, mais c'était des protestations formelles. En réalité, ce n'est pas la priorité de l'Arabie Saoudite que d'engager des forces, ne serait-ce que symboliques, dans cette décision de Trump. La priorité est aujourd'hui de conforter l'axe anti-iranien. Et dans cette mesure-là, il y a une rationalité dans cette modération arabe de la protestation. Ce qu'il faut ajouter, et pour, vous me direz que c'est, je le répète depuis tout à l'heure, mais je pense que c'est important aussi, c'est que il faut aussi analyser les types de confessionnalisation de la chose politique dans la région. Mmh. Et il m'apparaît tout à fait intéressant de noter ce qui n'a peut-être pas été suffisamment fait, que aujourd'hui, une caricature de Mahomet du prophète enflamme le monde musulman plus que la décision américaine de transférer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et on voit comment se déplacent les priorités à la fois géopolitiques et symboliques dans le monde musulman aujourd'hui.
Laurence Louer, pour en terminer avec la question donc de l'Arabie Saoudite, la guerre au Yémen, on en a parlé encore dans le journal avec la décision donc de la Russie de fermer leur ambassade au Yémen. Quelle peut être l'issue de ce conflit? On voit qu'il s'enlise, on voit qu'il obéit aux mêmes clés de lecture de cette partie-là du globe, puisqu'on a un affrontement avec une présence de l'Arabie Saoudite et une présence de l'Iran. Et qu'est-ce qui peut aujourd'hui se produire dans cette guerre?
Peut-être avant ça, juste un petit mot sur la position saoudienne sur le conflit israélo-palestinien. N'oublions jamais que depuis le début des années 82, le plan du roi Fahd est quand même extrêmement modéré, on va dire, dans le contexte de l'époque, puisqu'il propose pour la première fois officiellement à Israël la terre contre la paix. C'est-à-dire, vous rendez les territoires palestiniens que vous avez occupés et syriens en 1967, et en échange, vous aurez la paix et une reconnaissance. Hein. Donc, le deal était celui-là, et à l'époque, c'était quand même assez courageux. Donc, l'Arabie Saoudite a toujours été un peu chef de file des États arabes qui étaient prêts, au fond, à un deal avec Israël. Ce qui se dessine aujourd'hui, c'est peut-être un renoncement, en fait, à ce deal historique, puisque ce qu'on dit aussi, c'est que Mahmoud Abbas aurait été aussi convoqué à Riyad. Et que dans cet entretien, le prince héritier lui aurait fait entrevoir que ce serait peut-être mieux qu'il renonce à Jérusalem comme capitale du futur État palestinien, voire qu'il accepte comme point de départ un État dans la bande de Gaza et qu'ensuite pour les territoires de Cisjordanie, on verrait. Et
pourquoi ?
Puis voilà. Mais parce que, précisément, l'Arabie Saoudite a besoin d'Israël dans sa lutte contre Téhéran. Hein. On sait déjà qu'au cours des années 2000, par exemple, il y avait eu, semble-t-il, un accord disant que les avions israéliens auraient pu traverser l'espace aérien saoudien pour aller frapper les sites nucléaires iraniens. Donc ça fait très longtemps, au fond, que l'Arabie Saoudite s'aligne un peu sur les positions israéliennes.
Vous êtes en train d'expliquer qu'il n'y aurait peut-être pas d'unanimisme au sein du monde arabe contre Israël ?
Absolument pas. De toute façon, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus. Depuis 78, quand David, etc., l'Égypte a signé un traité de paix. Donc déjà, ça a été rompu depuis longtemps.
Mais en tout cas, que ce non-unanimisme va jusqu'à l'Arabie Saoudite, qui n'est pas n'importe quel pays, puisque donc elle abrite le lieu saint de l'islam, l'un des lieux saints. Et donc là aussi, on n'aurait pas forcément, au-delà de la protestation de façade contre ce qui est en train de se dérouler entre les États-Unis et Israël, il y aurait en réalité d'autres logiques et peut-être d'autres intérêts.
Bien sûr, enfin c'est la logique tout simplement hyper réaliste, j'ai envie de dire, où les intérêts perçus priment sur les identités religieuses, les idéologies.
Je crois qu'il était très important de rappeler le plan phare, effectivement, qui constitue un tournant dans la politique saoudienne, réellement. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite a fait partie de ce qu'on appelait à l'époque le front du refus, jusqu'à cette conversion, disons, à un réalisme politique qui a donné naissance au plan Fahd. Et n'oublions pas que le front du refus s'est déplacé à ce moment-là du côté d'Israël, c'est-à-dire que c'est l'État d'Israël qui a refusé le plan FAD, puisque pour la droite israélienne au pouvoir depuis longtemps maintenant, les territoires sont beaucoup plus importants que la paix, dans la mesure où il s'agit de ce qu'on appelle un conflit de basse intensité en stratégie internationale avec la Palestine. Donc il faut quand même pas oublier les deux côtés de l'affaire.
Et lorsqu'on continue toujours à dérouler la stratégie de l'Arabie Saoudite, si l'on parle cette fois-ci de la question des liens de ce pays avec le Qatar et aujourd'hui le contentieux qui sépare ces deux pays, on a toujours cette même grille de lecture avec l'Iran en arrière-plan.
Oui, alors il n'y a pas que la question iranienne dans le conflit avec le Qatar. Il y a le fait que les Saoudiens s'énervent depuis très longtemps que les Qataris, un tout petit pays qui fait partie du Conseil de coopération du Golfe, donc cette espèce d'union, d'alliance des monarchies du Golfe qui existe depuis les années 80. Et donc ce tout petit pays ait des prétentions à avoir une diplomatie indépendante du grand frère saoudien. Et notamment une position qui consiste à dire nous on parle à tout le monde, nous on négocie avec tout le monde et notamment avec les Iraniens avec lesquels les Qataris partagent un champ de gaz, donc ils ont bien intérêt à s'entendre avec eux. Et puis, soit aussi sur la question des frères musulmans, sur une ligne tout à fait différente, puisque pour les Qataris, les frères musulmans sont des alliés et pas des ennemis. Mmh. Alors pour les Saoudiens, depuis la guerre du Golfe de 90, les musulmans sont le cheval de Troie au sein du royaume et donc représentent un danger. Donc il y a beaucoup d'enjeux, on va dire, dans cette affaire Qatari.
Si on continue avec l'enjeu des frères musulmans, parce qu'on en a peu parlé aujourd'hui, et on voit là aussi dans quelle mesure ils compliquent le jeu, cette fois-ci du côté des pays qui ont opéré leur printemps arabe, je pense notamment à l'Égypte, Sophie Bessis, la situation à la fois donc sur le plan politique, sur le plan géopolitique et puis par rapport aux frères musulmans.
Eh bien, effectivement, il ne faut pas oublier que les frères musulmans, dans une première période, disons plutôt une seconde période historique, ont été soutenus par l'Arabie Saoudite à travers la Ligue Islamique Mondiale, à travers une série d'organisations qui a renforcé la confrérie des frères musulmans au sein du monde arabe. Et la position prise par la confrérie au moment de la guerre d'Irak, Irak-Koweït, en faveur de l'Irak, a provoqué une rupture absolument centrale dans l'histoire récente du monde arabe, dans la mesure où l'Arabie Saoudite a rompu avec les frères musulmans, où le Qatar a été le principal soutien des frères musulmans, et on a vu cela lors des printemps arabes, ou disons lors de la séquence qui a suivi les printemps arabes, c'est-à-dire lors de la séquence en Égypte et en Tunisie particulièrement, qui a, par le biais d'élections démocratiques certes, mais qui a porté au pouvoir les prolongements, locaux, pardon, des frères musulmans, Morsi en Égypte, le parti Ennahda en Tunisie.
Comment observez-vous justement la situation actuelle en Égypte? On a vu que la France était particulièrement proche aujourd'hui du maréchal Sisi. Il y a, semble-t-il, différents intérêts occidentaux pour que l'Égypte tienne. On voit dans le même temps que la situation, cette fois-ci en matière de sécurité intérieure dans ce pays, est aujourd'hui une situation qui est loin d'être apaisée, notamment au Sinaï, au Nord Sinaï.
Vous savez, il y a une chose. Bon, d'abord, vous savez qu'il y a eu un coup d'état militaire en Syrie en juillet 2013 qui a porté au pouvoir un régime qui est plus autoritaire et plus dictatorial encore que celui de Hosni Moubarak avant le soulèvement
en Égypte de
février 2013. Et je crois que les États occidentaux, une fois de plus, et la France avec eux, fait une erreur d'appréciation en pensant que les dictatures sont porteuses de stabilité et de sécurité. Ça n'est jamais le cas. Elles peuvent faire illusion pendant un certain temps, pendant un temps donné, mais ces dictatures sont porteuses d'immobilisme politique, mais pas de stabilité et de sécurité. Donc une fois de plus, je pense que sur l'Égypte, les États occidentaux se trompent en faisant leur allié principal dans la région.
Mais
c'est lié,
conditions,
comme nous le disions tout à l'heure, à la question israélienne, etc.
Mais alors dans ce cas-là, il se trompe beaucoup, parce que on pourrait tenir un discours comparable. Alors, non pas que la dictature soit comparable, mais disons un pouvoir autoritaire et opaque en Algérie,
bien sûr,
qui est un autre allié.
Mais c'est cela qui a mené à l'incompréhension totale en 2011 de la nature des soulèvements dans le monde arabe en 2011, puisque les pays occidentaux ont été totalement surpris par les soulèvements qu'il y a eu lieu en Tunisie, en Égypte et ailleurs, alors que toute personne qui observe la région de façon relativement détaillée, évidemment, ne pouvait pas connaître le timing de ces soulèvements, la date de ces soulèvements. Ça aurait pu être 6 mois avant, 1 an après, etc. Mais ils étaient inscrits dans l'évolution de ces pays, incontestablement. Et donc, là encore, il y a un aveuglement dans la mesure où l'obsession de la stabilité, d'ailleurs, laquelle stabilité a totalement volé en éclats dans cette région, l'obsession de la stabilité fait on ne sait pas, ici, en Occident, observer les sociétés du monde arabe.
Laurence
et l'Algérie, vous permettez un dernier mot, l'Algérie a un président en état de mort clinique avec un frère qui lui
apparemment est
oui, alors
encore
là c'est
vaillant.
Une autre question, effectivement on peut, si on parle de l'Algérie, voir quelles sont les divergences entre les oligarques menés par le frère et l'armée qui a toujours gouverné les destinées de l'Algérie depuis l'indépendance.
Laurence Louer.
Oui, enfin, de toute façon, c'est vrai que la démocratie, c'est source d'incertitude. Et donc, il faut gérer l'incertitude. Moi, je suis assez d'accord avec l'idée que l'autoritarisme n'offre qu'une stabilité, en fait, de façade. Et on voit très bien, les régimes autoritaires étant susceptibles d'être déstabilisés, contrôlons mal leur territoire, tout à fait le cas de l'Égypte actuellement. Donc au fond, la question des régimes politiques est extrêmement complexe et on pourrait en parler pendant des heures. L'opposition binaire, on va dire, entre régime démocratique et régime autoritaire n'est peut-être pas la seule clé de lecture en la matière.
C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'au fond, il existe une infinité de formules autoritaires, comme il existe une infinité de régimes démocratiques. Si on prend la question libanaise, par exemple, donc on a bien affaire à une démocratie confessionnelle où le pouvoir est partagé entre les différentes communautés religieuses, modèle extrêmement critiqué, mais modèle qui tient. Finalement, et qui a été réaffirmé comme étant peut-être la seule solution possible en l'état actuel, en tout cas, à la coexistence sur plus ou moins un pied d'égalité entre différentes communautés religieuses. Puis on a des démocraties majoritaires, donc plus le modèle sur lequel s'est acheminée la Tunisie, le modèle irakien, mais c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça n'a pas fonctionné, parce qu'au fond, en Irak, on aurait peut-être dû inventer au moins comme régime de transition un régime qui ménage une place aux vaincus de 2003,
c'est-à-dire n'a pas été fait.
Tout à fait. Les sunnites, plutôt que de débassifier et de désunniser grosso modo l'appareil d'État, il fallait inventer une formule qui garantisse à la minorité sunnite arabe d'avoir quand même des intérêts dans le nouveau régime. Et c'est ça l'échec de la démocratie en Irak.
J'ajouterais à votre nuancier, ce qui je partage tout à fait, le cas des types de décompression autoritaire monarchique comme la Jordanie et le Maroc qui ont des séquences de libéralisation et des séquences de fermeture qui est encore une autre forme, disons, d'exercice du pouvoir au sein du monde arabe.
Et pour ce qui concerne la situation actuelle en Tunisie, Sophie Bessis ?
Écoutez, économiquement, elle est absolument catastrophique. C'est-à-dire que la Tunisie cumule les déficits budgétaires, financiers, etc. Donc la situation catastrophique n'est pas la situation économique n'est pas bonne, donc la situation sociale ne l'est pas non plus.
Le tourisme ne revient pas un peu.
Si, il est un petit peu revenu cet été, mais ce n'est pas ça qu'il y a de plus important, me semble-t-il, aujourd'hui en Tunisie. C'est que l'on assiste aujourd'hui à un moment de blocage de la transition politique et un moment de blocage de cette démocratie en construction depuis 2011. Là, ce dimanche sera l'anniversaire du déclenchement du soulèvement le 17 décembre 2010 avec l'immolation, l'auto-immolation du jeune Bouazizi. Et on est dans un moment d'immobilisme avec une tentative incontestable de restauration autoritaire en Tunisie. Cette alliance entre le parti du président de la République, Nidé Tounes, et le parti islamiste Ennahda, qui est une alliance aujourd'hui, qui est une alliance stratégique, qui n'est pas une cohabitation, mais qui est une alliance, ce qui n'est pas du tout la même chose, et qui bloque tout à fait la vie politique. Et ces deux partis, aujourd'hui, s'adjoignent de plus en plus les services de hiérarques de l'ancien régime. Le gouvernement actuel est composé pour moitié, pratiquement, deux membres du parti de l'ancien dictateur Ben Ali. Donc on est dans une sorte d'impasse politique qui favorise évidemment à la fois le délitement de l'État qui continue, la prospérité de la corruption et des réseaux mafieux transnationaux qui sont représentés jusqu'au cœur de l'État. Donc je dirais que la Tunisie traverse une séquence à la fois économique, sociale et politique, aujourd'hui extrêmement dangereuse. De quelle façon s'en sortira-t-elle ? Où s'en sortira-t-elle ? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui.
Dangerosité de quel type ?
Dangerosité, vous disais-je, au point de vue d'abord de la démocratie, de la construction de la démocratie.
Mais qu'est-ce que vous redoutez ? Qu'il y ait un retour des bénalistes ou qu'il y ait une prise de pouvoir ?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à de nombreuses manifestations, on voit qu'il y a un recul des libertés démocratiques en Tunisie sur un tas de sujets que je n'ai pas le temps de développer ici, et un blanchiment, disons, des hiérarques de l'ancien régime, en particulier par ce qu'on a appelé la loi de réconciliation administrative, qui est passée en septembre et qui amnistie les responsables publics, c'est-à-dire les fonctionnaires et l'ensemble des responsables publics, des pratiques de corruption d'ancien régime.
Laurence Douer, vous souhaitiez rajouter quelque chose au sujet du Yémen ?
Oui, parce que finalement, on n'a pas parlé du conflit yéménite quand on parlait de l'Arabie Saoudite. Et donc, on parlait des clés de lecture, vous posiez la question des clés de lecture de ce conflit, qui sans doute est trop souvent appréhendé uniquement sous le prisme de la guerre froide entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, mais qui possède en fait des cause locale extrêmement complexe, puisqu'en fait ce conflit c'est une variante d'un conflit qui a commencé dès 2004 et qui mettait aux prises donc ce qu'on appelle les Houssis, c'est-à-dire une milice à la tête de laquelle se trouvent en fait les anciennes élites de l'imama zaïdite qui a existé au Yémen entre le 8e siècle et 1962, donc enfin, une longévité tout à fait extraordinaire, et donc un système politique qui était basé sur l'identité zaïdite, qui était un courant de l'islam qui est historiquement apparenté au chiisme, mais qui s'en est en fait énormément éloigné à partir du XVIIIe siècle. Et donc, un conflit mettant aux prises ces anciennes élites de cet État, qui avaient été marginalisées après notamment la réunification du Yémen en 1990. Et donc, depuis 2004, il y a une série de conflits vraiment à enjeux locaux, et en fait la nouveauté à partir de 2009 et encore plus de 2014 avec les deux interventions saoudiennes, c'est que ce conflit s'est internationalisé et qu'on a de plus en plus imposé un prisme confessionnel et géopolitique à ce conflit, qui complique énormément les choses, puisque on lit de plus en plus le conflit comme un simple conflit entre sunnites et chiites, alors que sur le plan identitaire et religieux, les zaïdites n'ont pas grand chose à voir avec les chiites d'aujourd'hui, puisque la doctrine, les identités religieuses, les populations se sont beaucoup plus rapprochées des sunnites en réalité. Et l'implication iranienne auprès des milices houthis au Yémen, elle est avérée, mais son ampleur est relativement mal connue.
Justement, pour déconfessionnaliser cette confessionnalisation, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, les zaïdites qui sont combattus par l'Arabie Saoudite, qui fait une guerre contre eux, qui mène une guerre, étaient soutenus par l'Arabie Saoudite dans les années 60 contre les républicains yéménites, soutenus à l'époque par Gamal Abdel Nasser. Donc les zaïdites ont été pendant une longue période les alliés de l'Arabie Saoudite.
Un mot de conclusion, Laurence Louer, et au début de ce dialogue, je vous ai dit, voilà, il y a un point de décomposition du monde arabe qui se révèle au travers de son impuissance diplomatique, et vous sembliez dire qu'il pouvait y avoir encore, hélas, une dégradation de la situation. D'où viendrait-elle ? Et si vous redoutez quelque chose, où le redoutez-vous ?
De toute façon, il y a encore les grands conflits. Le conflit yéménite est catastrophique. Il faut quand même le rappeler, sur le plan humanitaire, c'est une vraie catastrophe, d'accord ? Le conflit syrien, voilà, peut-être la guerre est terminée, mais enfin, tant qu'il n'y a pas de solution politique, il n'y aura pas de paix et de stabilité. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec la question de Jérusalem. Une nouvelle intifada palestinienne, enfin, de nouveau de l'instabilité dans les territoires. Rien n'est joué. N'oublions pas non plus l'Irak, parce que c'est pas parce que Daesh n'existe plus que la question politique est résolue. Loin de là.
Rien. Un mot de complément,
oui,
Sophie
oui,
Bessis.
Rien n'est résolu. Disons qu'il y a un certain nombre de conflits qui sont en sommeil, peut-être aujourd'hui, comme le conflit syrien, encore que l'on ne puisse pas parler réellement de sommeil, mais absolument rien n'est résolu dans le monde arabe aujourd'hui. Absolument rien.
Laurence Douer, Sunnite et Chiite, Histoire politique d'une discorde, c'est publié aux éditions du Seuil. Sophie Bessis, La double impasse, aux éditions de La Découverte. Elle est valeureuse chez Elizade, c'est publié cette année. Merci à toutes les deux de nous avoir éclairés sur la situation du monde arabe.